Vous écoutez
RMC. Face à face.
Apolline de Malherbe.
Et vous êtes bien sur RMC et BFM TV. Bonjour Thierry Breton.
Bonjour.
Merci de répondre à mes questions ce matin. Vous êtes l'ancien ministre de l'économie et ancien commissaire européen du marché au marché intérieur. Conseil de défense ce matin à 8h30 à l'Élysée et un tournant à nouveau dans le détroit d'Ormuz ce week-end. Un navire français hier soir, d'ailleurs CMA-CGM, propriétaire de BFM TV et RMC, a fait l'objet, je cite, de tirs de semonce dans le détroit d'Ormuz. Son équipage est sain et sauf. Du côté des États-Unis, on dit avoir arraisonné un bateau iranien. Qu'est-ce qui se joue dans les heures qui viennent? Peut-être d'ailleurs des négociations. À quoi est-ce qu'il faut s'attendre là-bas et évidemment les conséquences ici?
Nous sommes encore, Apolline de Malherbe, dans cette phase de négociation. Et on sait qu'elles sont bornées par le fait que dans deux jours, le cessez-le-feu donc doit tomber. Et donc on est aujourd'hui en face de trois scénarios. Et je crois qu'il faut bien les avoir en tête et aussi voir tout ce qui se passe. Évidemment, il y a des moments difficiles, voire potentiellement tragiques, parce qu'encore une fois, le détroit est bloqué et il est bloqué dans les deux sens. Il est bloqué par les Iraniens, il est bloqué par les Américains. Donc tous ceux qui essayent de passer, eh bien, il faut démontrer à l'autre qu'on est sérieux. Il faut démontrer à l'autre qu'on est sérieux.
Et parce donc que nous faire sommes... la démonstration qui
et
a
voilà.
été faite sur ces deux navires.
Et c'est ce que l'on voit. Alors maintenant, les trois scénarios, lesquels sont-ils? Le premier, c'est que dans les 48 heures qui restent, on tombe d'accord. On tombe d'accord sur un certain nombre de choses. Alors les Américains ont beaucoup baissé leurs prétentions. On sait désormais que les buts de guerre, c'est rouvrir le détroit d'Ormuz et régler, si on peut dire, je mets des guillemets, vous voyez, le problème de l'uranium et le problème de la bombe atomique iranienne. Il y a encore des éléments à négocier, beaucoup. Mais enfin, c'est les buts de guerre maintenant. Ça serait le premier scénario.
Ce serait
le scénario entre nous, aujourd'hui, où on en est, idéal, parce que, hélas, je dis bien hélas, tout le monde a abandonné l'idée que cette guerre avait pour but, aurait eu pour but, et pour conséquence,
un changement de régime.
Malheureusement pour la population iranienne, on sait que c'est derrière nous ça. Bon, on verra ensuite dans l'avenir. Pour l'instant, c'est fini. Deuxième scénario, ce serait finalement que, on se rend compte que c'est compliqué, et donc on va se donner un nouveau délai et donc un nouveau cessez-le-feu.
On poursuit le cessez-le-feu et donc
on va se donner quoi, peut-être 10 jours, peut-être 15 jours. Mais attention, n'oublions jamais que Donald Trump doit aller en Chine le 14 mai. Pour lui, c'est un voyage qu'il a déjà repoussé. Il devait y aller le 30 mars, il l'a annulé parce qu'évidemment à cause de la guerre. Et ça, c'est très important pour les États-Unis, c'est très important pour lui. On sait qu'il est très affaibli et contesté aujourd'hui aux États-Unis à cause de la guerre. Donc, si jamais il remettait à nouveau, il le paierait politiquement très cher. Donc, on a peut-être une borne là. Et puis le troisième scénario, ce serait le scénario
de la reprise de la guerre.
C'est évidemment celui qui serait le plus négatif. D'abord, évidemment, pour l'Iran, pour la région, mais aussi pour nous, Apolline de Malherbe. Quel est celui dont je pense qu'il est le plus probable? Je prends des précautions, j'ai pas de boule de cristal, mais vraisemblablement c'est le scénario numéro 2,
c'est-à-dire gagner du temps
et se redonner du temps. J'en veux pour preuve le fait que Donald Trump a demandé à nouveau à son vice-président, J.D. Vance, de mener la délégation américaine. Il semble qu'elle soit partie pour y aller. Il faut quand même une vingtaine d'heures pour y aller, donc très bien. On a vu que les Iraniens font un peu de la résistance, si je puis dire, parce qu'ils ont
Ils disent à ce stade qu'ils ne sont pas prêts à négocier.
Donc voilà. Ils sont eux à 3 heures de vol, d'Islamabad. Donc ils peuvent encore changer.
On va voir
dans la journée. J'ajoute qu'ils ont besoin aussi de la chasse pakistanaise pour y aller. Le ciel aérien iranien, il est fermé. C'est quand même un paradoxe. Ce sont les Pakistanais qui assurent la protection donc de la délégation iranienne.
Thierry Breton, qu'est-ce que ça change pour nous?
Ça change, si vous voulez, pour nous, pour l'instant. D'abord, il faut toujours regarder les marchés. Les marchés aujourd'hui, ils ne sont pas affolés. Donc, ils misent plutôt sur le fait qu'on va trouver un accord. Parce que, encore une fois, je crois qu'il faut s'arrêter une seconde, si vous le permettez. On était dans une guerre asymétrique. C'était finalement les Iraniens qui avaient le temps. Parce que eux, évidemment, ils peuvent bombarder à coup de drones à 30 000 dollars, arrêtés par des patriotes à 2 millions de dollars. Et donc, cette guerre asymétrique, une guerre de flux contre une guerre de stock, c'était les Iraniens qui avaient l'avantage. Les Iraniens, donc, ils misaient sur le fait que la population, les populations occidentales, nous autres, bien entendu, mais aussi les Américains, on se souvient qu'aux États-Unis, on le sait, aux États-Unis, le prix du gallon, il est passé de 2,80 $ à 4,10 $. C'est énorme, ça a un impact politique gigantesque aux États-Unis. L'inflation a redépassé les 3% pour être à 3,3%. Les taux d'intérêt recommencent à monter aux États-Unis. Et Donald Trump est le plus bas dans les sondages. Jamais un président des États-Unis n'a été, à ce stade, à 4 mois des primaires, aussi bas. Donc ça, il paye un prix politique, il faut bien en être conscient, nous, très fort. Les Iraniens jouaient là-dessus. Sauf que, et ça, il faut vraiment s'arrêter là-dessus, les Américains ont fait quelque chose d'intelligent. C'est qu'ils ont fait un blocus dans le blocus. Ils ont dit, puisque c'est comme ça, nous, on va bloquer tous les bateaux qui vont en Iran ou qui en partent. Mais, Madame de Malherbe, l'Iran a besoin. L'Iran dépend également de beaucoup d'autres pays.
Oui, parce qu'on parle de tout ce qui sort de l'Iran, voilà, mais effectivement, plus rien ne rentre.
Par exemple, le maïs. L'Iran importe 5,6 millions de tonnes de maïs. Ils en ont un besoin majeur. Le riz, les huiles, le sucre, bien entendu, les médicaments. Beaucoup de choses, les intrants évidemment qui vont servir, d'abord les intrants pour l'agriculture mais aussi les intrants technologiques pour faire leurs missiles et leurs drones. Donc l'Iran aujourd'hui commence à souffrir du blocus. Alors la population a énormément souffert des bombardements, mais j'allais dire, hélas, c'est tragique, je prends des précautions en le disant, ils ont l'habitude. Mais ces destructions font que désormais beaucoup d'Iraniens sont au chômage. Songez quand même, parce qu'on le sait peut-être pas, l'inflation est à plus de 50%, vous vous rendez compte, en Iran, à plus de 50%. La monnaie iranienne s'est dévaluée de 30% encore. Donc tout ça a un coût économique et social très important. Le bazar, n'a plus, je dirais, de quoi fournir.
Le bazar dont on se souvient qu'il a été aussi l'un des lieux du déclenchement des dernières révoltes.
Les boutiques sont plus achalandées. Alors les gens commencent à faire la queue. Donc là, ça commence à peser aussi.
Thierry Breton, vous avez dit plusieurs choses et je voudrais qu'on essaie de comprendre aussi ce qui se joue. Vous avez parlé d'inflation, vous avez parlé des taux d'intérêt. Vous avez parlé aussi de la guerre des flux et guerre des stocks. Je voudrais qu'on s'arrête un instant là-dessus. Vous parlez quoi? Des munitions?
Alors évidemment, ce sont là les munitions, puisque les munitions pour pouvoir précisément d'un côté se protéger, et c'est évidemment toute l'architecture de sécurité que les États-Unis ont mis, y compris dans les pays du Golfe. Ça a fonctionné plutôt pas mal, mais enfin, il y a quand même 10% qui sont passés. Ben, 10%, c'est 10% de trop. Alors, peut-être un petit peu moins, mais enfin, il y en a qui sont passés et il y a eu des destructions très importantes, suffisamment, du reste, pour affaiblir d'un point de vue industriel l'ensemble des pays du Golfe. Et on sait, par exemple, que les Émiratis ont aujourd'hui reçu plus de missiles que Israël. Donc là, on est dans une logique où, effectivement, les Iraniens continuent à bombarder. Ils ont encore, il faut bien le savoir, ils ont encore des milliers de drones. Ils fabriquent à peu près encore, il y a beaucoup de destructions ont eu lieu, mais une centaine de missiles par mois. De l'autre côté, on fabrique en Occident, évidemment aux États-Unis, 40 seulement missiles antimissiles patriotes, donc pour protéger. Vous voyez, donc il y a un déséquilibre.
Vous voulez dire, en fait, on met plus de temps, on met du temps à reconstituer nos stocks. C'est ça ce que vous voulez dire.
On met beaucoup de temps à reconstituer nos stocks.
Quand on dit on, c'est les Occidentaux.
C'est évidemment et les États-Unis, puisque ce sont eux qui fournissent évidemment la quasi-totalité donc de ces systèmes de protection, notamment auprès des pays du Golfe. Donc on avait aussi une asymétrie politique. Et ce que je veux vous dire aujourd'hui, c'est que les Américains ont rééquilibré maintenant.
Avec le blocus du blocus.
Avec le blocus. Donc, on est dans une phase où, évidemment, chacun va essayer de montrer qu'il peut peser sur l'autre. Je crois qu'il faut le lire comme ça. Elle est très incertaine. C'est pour ça que j'ai indiqué 3 scénarios. Il me semble aujourd'hui que le plus probable, c'est le numéro 2. Mais on va voir.
Inflation, taux d'intérêt et question évidemment de l'impact. Le pétrole est légèrement reparti à la hausse. Est-ce que la France peut continuer à avoir quelques aides ciblées? Les premières entrent en vigueur à partir d'aujourd'hui, mais elles sont complexes et elles sont moindres que ce que font nos voisins. Quand on regarde l'Italie, l'Espagne et l'Allemagne en particulier qui baissent notamment les taxes, est-ce qu'on n'aurait pas pu imaginer une coordination européenne de toutes ces questions-là? On est tous confrontés à la même question et j'ai l'impression que chacun gère un peu à la petite semaine.
Oui, parce qu'encore une fois, c'est à la main. Encore une fois, alors vous voyez, il y a des fois on demande, on dit on a trop d'Europe, des fois on n'a pas assez d'Europe. Ces questions, et ces questions qui sont des questions de fiscalité, parce qu'à la fin c'est de la fiscalité, sont à la main des États membres et je crois que c'est une bonne chose. Ce qui reste à la main des États membres, c'est évidemment la diplomatie, c'est la défense, c'est la fiscalité et je crois que c'est important que ça le reste. Qu'il y ait de la coordination, oui, mais on n'en est pas encore là. On n'en est pas encore là parce qu'on n'est pas encore dans une crise. On est dans une crise.
On n'est pas encore dans une crise.
On est évidemment dans un impact très important, un impact économique.
Vous avez dit
important.
Nous sommes dans un choc des prix temporaire et artificiel. Est-ce que vous maintenez
Je le maintiens. Bien sûr, il faudra du temps pour revenir à une normalité. Mais enfin, regardez, avec ce qui se passe. Alors bien sûr, le baril est à 95 à peu près en gros à l'heure où nous parlons est à $95. Bon, on n'est pas à 100. Alors évidemment, on était à 65, 70. Mais voyez-vous, je crois vraiment que pour la France, d'abord, il faut qu'on le sache, hein, on est le pays qui est aujourd'hui en valeur absolue le plus endetté d'Europe et en proportionnalité.
On n'a plus les moyens. On n'a pas les moyens.
Mais de toute façon, non, c'est vraiment le quoi qu'il en coûte, c'est terminé. On n'a pas les moyens. Mais j'ajoute que aujourd'hui. Ce qui est tout à fait important d'avoir en tête, c'est que l'État, effectivement, par la TVA, gagne un peu d'argent avec ça.
Est-ce qu'il doit le redistribuer ou est-ce qu'il doit s'en féliciter?
Il doit le redistribuer intégralement. J'ai calculé que par augmentation de $10 le prix du baril, on est à peu près parti à $70 avant la guerre. Un peu
donc
moins.
Là, on a augmenté de 20 dollars.
De 30, ouais, une trentaine.
20, voilà. 30.
Et ben, par tranche de 10. L'État engrange entre 30 et 60 millions d'euros. Eh ben, par mois. Ça veut dire qu'en gros, une cinquantaine, en gros, en moyenne. Eh ben, il faut intégralement redistribuer tout ça. Il faut évidemment que l'État ne fasse pas un sou de bénéfice, sur le dos de la situation. Et donc, le redistribuer, c'est ce qu'il a, du reste, commencé à faire pour ceux qui en ont besoin. Évidemment, les marins pêcheurs, évidemment, les agriculteurs, évidemment,
Vous prenez une forme, je cite, de rigueur budgétaire. Vous dites qu'on devrait s'obliger à ne pas faire plus de 1% de déficit. Ça fait des années que tout le monde dit ça. Personne ne le fait. Personne n'a le courage de le faire.
Et c'est la raison pour laquelle, effectivement, vous avez raison. Je prône, non pas cette discipline, mais cette trajectoire, comme les Allemands l'ont fait. En 2009 et 2010, les Allemands qui vivaient en coalition, parce qu'évidemment, il n'y a pas de parti majoritaire en Allemagne, eh bien, droite comme gauche, ils se sont mis d'accord pour pouvoir se dire que désormais, dans la Constitution, pour se forcer, encore une fois, il y avait un chemin. Alors chacun peut mettre dans ce chemin ce qu'il veut, plus d'impôts, moins d'impôts, plus de dépenses, moins de dépenses. Mais il y avait un chemin qui faisait qu'il s'interdisait d'avoir un budget en déséquilibre. Et c'est la droite et la gauche allemande qui l'ont fait. C'est faisable. Ce que je propose donc, parce que je vois bien ce qui se passe, on fait des tas de promesses, on fait des tas de projets, on fait des tas de programmes, et puis derrière, on a une Assemblée nationale qui est évidemment éclatée, et donc toutes ces belles promesses tombent dans le trou noir des dépenses publiques, et on n'y arrive pas. Donc ce que les Allemands ont fait, oui, je prône, moi, c'est ma proposition, donc de 1% de déficit, alors pas demain, en 2032, vous voyez, on a encore le temps, c'est pas très agréable. C'est une trajectoire, c'est le projet que je propose à l'ensemble des chefs de parti de mettre dans la Constitution française.
Que ce soit constitutionnel.
Les Allemands l'ont fait.
Donc,
comme les Allemands l'ont fait, juste pour
invariable
pouvoir...
au changement politique de l'Assemblée nationale.
Mais je le redis, bien entendu, ça veut dire quand même tous les ans, parce qu'il y a 1% de déficit, on n'est pas à zéro, parce qu'on a un peu de croissance, c'est entre quand même 70 et 80 milliards de dépenses de plus. Pour l'année dernière, c'est tout sauf de la rigueur. C'est la discipline, parce que hélas, désormais, la France est indisciplinée et cette indiscipline a un coût. Ce coût, c'est la prime de risque.
C'est ce qu'on voit aujourd'hui.
Et c'est
la capacité à pouvoir.
Mais c'est aussi
nos intérêts,
Madame de Malherbe. Aujourd'hui, on va payer. Tenez-vous bien. Dans un an, on va payer. Un an et demi, on va payer 100 milliards d'intérêts.
Sur notre dette.
100 milliards pour nos téléspectateurs et nos auditeurs. Le budget de la France, le budget des administrations, c'est 350 à 380 milliards. C'est quasiment un tiers.
Et quelles conséquences sur les particuliers, sur les entreprises? Les prévisions de croissance viennent d'être revues légèrement à la baisse. On prévoit un retour de l'inflation, y compris dans les rayons, y compris alimentaires. Et vous parliez à l'instant des taux d'intérêt, qu'ils peuvent aussi remonter, y compris pour les particuliers et les entreprises.
Bien sûr, les taux d'intérêt du reste ont maintenant tendance tendance à remonter parce qu'évidemment l'inflation repart. Alors on n'est pas du tout dans des situations, par exemple, qu'on a pu connaître lors de la guerre
au début de la guerre en Ukraine.
Parce que là on part à une inflation qui est aux alentours de 1,7, donc elle est parfaitement maîtrisée. Elle va monter un petit peu, oui, c'est des prévisions. On a sans doute la croissance qui était anticipée à 1 ou 0,9, peut-être qu'elle sera à 0,9 ou 0,8. C'est encore une situation qui est gérable, mais évidemment, il faut être très attentif.
Je vous sens, Thierry Breton, mon ressenti est juste, vigilant, mais pas outrageusement inquiet.
Je ne suis pas le seul, les marchés sont également dans cette perspective. Je ne dis pas que les marchés ont toujours raison, mais parce que je fais l'analyse comme vous, que aujourd'hui, compte tenu de la pression qui s'exerce sur les États-Unis, et notamment politique autour de Donald Trump, il faut jamais l'oublier. Lui, il écoute les marchés. Les marchés lui disent, il faut maintenant arrêter. Parce qu'il n'y avait pas de but de guerre quand on est parti.
Vous avez vraiment l'impression qu'il l'écoute?
Oui, il écoute. Les seuls qui l'écoutent aujourd'hui, ce sont les marchés. Et il y a une personne qui joue un rôle très important pour lui rappeler, c'est sa directrice de cabinet.
Vigie, en quelque sorte, considère qu'elle a vraiment un rôle important aussi pour le canaliser.
Elle a repris vraiment la main, et on voit qu'il y a un peu plus de rationalité désormais pour l'atterrissage de cette crise. Mais les Iraniens aussi ont désormais besoin, à cause, grâce, on peut dire ce qu'on veut, de ce blocus dans le blocus, désormais, il y a une sorte de réciprocité de l'impact politique et sur les populations. Donc tout le monde, désormais, a intérêt à faire atterrir, je dirais, un accord, y compris, par parenthèse, ceux qu'on oublie mais qui sont très présents dans la région et de plus en plus présents, les Chinois.
Thierry Breton, deux questions encore. L'une d'abord sur Elon Musk, puisqu'on est en train de parler des États-Unis, et convoqué par la justice française. Vous avez eu un véritable bras de fer, je dirais, par réseaux sociaux interposés avec lui. Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui? Quel regard vous portez aussi là-dessus?
Écoutez, j'ai compris qu'il avait il était convoqué par la justice française parce que, si j'ai bien compris, il y a eu un moment où son réseau X et notamment son programme Grok d'intelligence artificielle pouvait tout simplement déshabiller n'importe qui.
Mais est-ce qu'il faut
et que c'est totalement illégal et que malgré les demandes de retirer tout cela, ça n'a pas été fait. Donc je pense qu'il y a peut-être matière à s'expliquer. En tout cas, c'est ce que juge. C'est évidemment illégal et c'est contraire au droit et notamment.
Et donc il doit se plier.
Pas comme tout le monde. Et encore une fois, il s'agit pas de brimer. J'entends dire que le premier amendement américain dit qu'on peut dire tout et n'importe quoi aux États-Unis, c'est vrai. Mais c'est pas parce qu'on peut dire tout n'importe quoi aux États-Unis qu'on peut dire tout n'importe quoi en Europe. Et donc, si jamais il veut utiliser, avoir la chance de pouvoir vendre ses services X en Europe. Je rappelle qu'on est le premier marché le plus solvable au monde en matière donc de marché numérique. On est une fois et demie plus important que le marché américain en nombre de personnes et donc c'est très important dans le marché numérique. Ben, s'ils veulent pouvoir le faire, il faut tout simplement qu'ils se plient à nos règles, quels que soient encore une fois les messages qu'il envoie aux États-Unis. Ça nous regarde pas. Il fait ce qu'il veut.
Mais s'il
est en Europe, il doit juste respecter la loi et le droit européen.
Thierry Breton, vous êtes l'ancien ministre de l'économie et ancien ministre au marché intérieur. Aujourd'hui, le MEDEF commence un certain nombre de déjeuners. Ils déjeuneront cette semaine avec Édouard Philippe, avec Marine Tondelier. Mais aujourd'hui, c'est Jordan Bardella. Déjeuner avec le RN. Est-ce que c'est pour vous du réalisme, une sorte de réel politique, ou est-ce que c'est une manière d'adouber ou de banaliser le Rassemblement national?
Mais le MEDEF est une organisation patronale. Et le MEDEF, évidemment, donc en tant qu'organisation, ça me semble parfaitement légitime, qu'il le voit, toutes celles et tous ceux qui aspirent à être président, à diriger notre pays, et surtout quand on a des programmes économiques qui sont pas très très précis, pas très clairs. Pour l'instant, je n'ai pas entièrement compris la finalité du programme économique du MEDEF.
Mais du MEDEF ou du Rassemblement national?
Du Rassemblement national. Mais évidemment, le MEDEF, on n'a pas de programme, il est là. Que le MEDEF reçoive tous ces candidats, ça me semble parfaitement légitime et c'est, je dirais, son rôle. Alors après ça, en tirer les conséquences et les conclusions qu'on veut, ça je laisse à chacun le soin de le faire. Moi, ça ne me choque pas du tout, bien au contraire, que le MEDEF
prenne le temps
de les écouter, mais aussi de faire savoir ce qui est important pour l'économie française et pour la compétitivité de nos entreprises.
Merci Thierry Breton d'avoir répondu à mes questions. Il est 8h47 sur RMC BFM TV.